Deux passages bibliques pour notre méditation ce matin. Tout d'abord, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, les deux premiers versets. Il me dit « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'écoutai celui qui me parlait. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, après le récit de Pentecôte, je dirais même à la fin du récit de Pentecôte, nous y lisons ceci. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Et puis, peu de temps après, Pierre, l'apôtre Pierre, prend la parole et cite le prophète Joël. Il dit ceci, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Frères et sœurs, avant d'entreprendre une traversée de ces versets bibliques, je vous propose de prendre votre psautier français. Au psaume 47, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
La Bible nous rapproche de toi, Éternel, à travers le témoignage de personnes qui ont reconnu ta présence active. Ouvre maintenant notre esprit pour que nous entendions un écho de ta parole dans ces mots de la Bible que nous avons lus.
Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, s'il est bien présent dans les textes bibliques et dans la tradition chrétienne, n'est probablement pas ce qu'il y a de plus facile à expliquer à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien au christianisme. Je ne suis même pas tout à fait convaincu que les chrétiens eux-mêmes seraient capables d'en dire quelque chose de théologiquement juste. Et c'est pourtant en ce dimanche de Pentecôte, la fête de l'Esprit, la fête du Saint-Esprit est une fête qui vous mobilise puisque vous êtes là. Mais pourquoi donc êtes-vous là? Alors, j'aimerais vous parler un peu du Saint-Esprit. Et je vais essayer de le faire dans des mots simples et accessibles et prendre trois mots-clés. Intériorité, interaction, intelligence. Commençons avec Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel fait l'expérience du Saint-Esprit, il se retrouve debout. Et cela nous rappelle que l'Esprit est la traduction française de mots qui, en hébreu avec « ruach », en grec avec « pneuma », veulent dire le souffle, le vent. Tel le matelas pneumatique dans lequel on s'essouffle, Ézéchiel se retrouve gonflé à bloc. Il peut donc se tenir sur ses pieds, je dirais, non sans une certaine malice, il cesse d'être avachi. Il cesse d'être le pantin désarticulé que les adolescents sont parfois si promptes à montrer à leurs parents. Il devient un homme debout, quelqu'un qui peut prendre sa place, toute sa place, dans le monde des vivants, de manière ferme et assurée. L'Esprit, de ce point de vue, désigne Dieu à l'œuvre pour faire de nous un être consistant. Fin du mollusque informe, bienvenue à l'être qui prend la forme de l'humain. Évidemment, le souffle, le vent sont des images pour dire que l'Esprit divin est ce qui s'infiltre dans l'homme, dans la femme, en utilisant la moindre brèche, la moindre faille, le moindre interstice. Certainement est-il possible d'être totalement fermé, d'être totalement hermétique, d'être totalement bouché même. Mais la moindre ouverture, aussi minime soit-elle, peut être utilisée par ce que nous appelons l'Esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes parfois surpris d'être remis debout alors que nous pensions que la situation était totalement désespérée, que tout nous accablait et que plus rien ne pourrait nous permettre de nous en sortir. Mais il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'ouverture, un moins que rien, pour que la grâce divine change notre vie. Cette image du vent et du souffle est surtout une manière de donner un critère de discernement pour savoir ce qui relève de l'action de Dieu. Et cela vous intéressera peut-être plus précisément. Qu'est-ce qui est divin, finalement, dans le cours de notre histoire? Eh bien, est divin ce qui donne de l'ampleur à notre vie, ce qui nous épanouit, ce qui agrandit notre intériorité. Toutes les expériences qui nous rendent plus petits, tout ce qui nous diminue, tout ce qui nous atrophie, est contraire à la dynamique divine, qui, elle, élargit l'espace intérieur de notre tente. Une religion qui nous réduirait au néant, une idéologie qui briderait nos capacités, notre liberté, tout engagement, toute adhésion qui nous rendrait esclaves est contraire à la perspective divine, qui, par les métaphores de l'esprit, le souffle, donne de l'amplitude à notre personne, donne du contenu. Prenons le cas d'un ballon de football. Il a évidemment besoin d'être gonflé pour donner le meilleur de lui-même, certainement, et permettre au Paris Saint-Germain de montrer ce que jouer au foot veut dire. Et bien de la même manière, il nous appartient d'être sacrément gonflés, chargés d'audace et d'amour, pour mieux nous lancer dans l'aventure de la vie. Que fut la première partie de votre vie ? Ce fut de bénéficier de l'Église, qui ne manque pas de contenu. Et qu'a fait l'Église ? Elle vous a rempli. Un peu de ceci. Vos parents vous ont donné un peu d'expérience. À l'école, au collège, vous avez reçu quelques notions de science. Et puis, vous-même, vous avez fait vos expériences personnelles. Vous avez acquis un savoir qui vous est précieux. Autrement dit, vous avez rempli votre être intérieur. Qu'est-ce que la théologie ? Peut-être l'art de vous enseigner ce qui donne de la profondeur à la vie. Vous faire découvrir comment célébrer la vie, ce qu'est la foi en Dieu, la confiance en ce qu'il y a de plus ultime, ce qu'il y a de plus absolu, ce qu'il y a de plus sacré, ce pourquoi il est bon de se lever le matin et de se battre. Mais il ne suffisait pas que vous fussiez, encore fallait-il que vous existassiez. Car la tête bien remplie, c'est bien, mais la tête bien faite, c'est encore mieux. La dynamique de l'esprit n'est pas seulement de vous remplir de bonnes choses. L'esprit souffle pousse aussi votre voile en direction de l'horizon que l'Évangile révèle. L'Évangile n'est pas une morale. L'Évangile n'est pas le catalogue des servitudes. L'Évangile nous donne des propositions d'horizons vers lesquels nous pouvons nous rendre pour rendre notre vie un peu plus intéressante, un peu plus stimulante, un peu plus pétillante, un peu plus vivace. L'esprit, parce que c'est le souffle, parce que c'est le vent, nous porte au-delà du lieu où nous nous tenons. L'esprit nous pousse à ne pas rester campé sur nos certitudes, à ne pas nous satisfaire simplement de ce que nous avons reçu, une fois pour toutes. L'esprit n'est pas une force statique qui nous maintiendrait contre vents et marées, coûte que coûte. C'est une dynamique qui nous propulse dans le monde et nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. L'esprit me rapproche de l'autre, de celui qui s'approche de moi, donc de mon prochain. Il n'est pas encore trop tard pour redoubler. Dès lors que je suis face à un prochain que je n'ai pas choisi, mais dont je me suis rendu proche ou qui s'est rendu proche de moi, eh bien, une relation peut commencer qui me fera découvrir que le prochain n'est pas d'abord une menace, mais un univers à explorer, tout comme nous sommes un univers à part entière, élargi à la démesure de l'éternel. Et alors, une relation peut commencer qui nous engage à fond, qui met en œuvre tout ce que nous avons reçu, tout ce dont nous nous sommes nourris. Une relation se tisse, qui me fait me tenir hors du territoire que j'occupais jusque-là, les préoccupations de ce prochain, ses convictions, ses habitudes me font réagir. Je me positionne désormais par rapport à ce qu'il me dit, par rapport à ce qu'il me montre. Ses questions deviennent mes questions. Je suis donc plus que moi-même grâce à lui. Sa présence m'oblige. Elle me stimule. Elle me métamorphose. Martin Buber nomme Dieu ce processus par lequel la présence d'un « tu » fait de moi un « je ». La relation « tu »« je ». Je ne suis pas simplement un individu, droit dans ses bottes. Je deviens une personne, un être de relation. L'esprit désigne alors cette interaction, cette relation divine qui exalte notre caractère, nos talents. L'esprit désigne ce qui réalise les promesses de l'Évangile, à savoir que nous sommes enfants de Dieu. Une expression peut-être un peu trop routinière, qui dit qu'en fait nous sommes membres d'une même fratrie. Ici, c'est une même famille. Et ici est au-delà des murs, parce que c'est une communauté qui existe, qui ne se contente pas de ce lieu de culte. Elle existe par-delà les murs, par-delà les frontières symboliques. Dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est dire aussi que nous sommes d'une richesse infinie. Une richesse qu'à votre âge, nous commençons simplement à intuitionner. Vous êtes bien remplis. Et que se passe-t-il lorsque vous rencontrez un autre catéchumène? Eh bien, une interaction arrive. Et de transparent que vous étiez, vous vous révélez à vous-même sous un autre jour, sous une autre densité, sous une autre lumière, pour reprendre un terme biblique. L'autre me révèle à moi-même. Je prends alors conscience de ma personnalité. La présence de l'autre me rend infiniment plus grand que ce que je ne pouvais imaginer. Et c'est cela aussi ce que l'Esprit désigne, cette interaction positive qui, de transparent que j'étais, me révèle un être consistant. Comme au jour de Pentecôte, une interaction divine nous donne le sentiment d'être hors de nous, ce qui en grec se dit « exister ». Être, exister, et puis l'intelligence, mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre la vie. Voilà ce que réalise l'esprit. L'esprit, nous l'avons entendu aussi bien avec le début du livre d'Ézéchiel qu'avec ce passage du livre des Actes, l'esprit rend prophète. C'est heureux que vous soyez déjà un peu poète, mais vous êtes aussi prophète dans votre genre. Le prophète dans la Bible n'est pas celui qui est capable de dire le futur, celui qui est capable de prédire les prochains numéros du loto. Le prophète est celui qui accède à la vérité du présent, ce qu'un peu techniquement nous appelons le réel. Le prophète a partie liée à la vérité. Quand le souverain sert ses intérêts personnels au lieu de rendre service, le prophète brandit la vérité. Quand le peuple désespère d'une situation, le prophète l'aide à mieux comprendre les signes des temps et à discerner la vérité qui se cache derrière les analyses faussées qui le font désespérer, qui parfois le font chuter. Si nous suivons l'affirmation d'Emmanuel Lévinas, qui prétendait que le propre des intellectuels est de dire la vérité, alors être prophète, c'est être un intellectuel. Et peut-être ce terme un peu galvaudé d'intellectuel ou ce terme un peu dévalorisé d'intellectuel aujourd'hui n'est que l'actualisation de ce terme prophète, ce qui n'est pas rien. Intellectuel, prophète, c'est après tout chercher avec passion la vérité d'une situation, la vérité d'un être, la vérité d'une vie. Dans la Bible, le prophète n'est pas un être isolé. Il est parfois seul contre tous, mais il n'est pas seul, précisément. De même, l'intellectuel ne saurait être enfermé dans sa seule suffisance. Eh bien, les chrétiens ne sont pas seuls au monde non plus. Et après tout, cette assistance le confirme. On ne peut pas être chrétien tout seul. Le prophète est au bénéfice de l'esprit souffle. Il est donc au bénéfice des interactions de son entourage. Il n'est pas seul face à une situation, mais en compagnie d'une multitude d'autres personnes qui font face à la vie, chacun ayant un rapport spécifique à ce qui arrive, chacun ayant une vision particulière. Ne serait-ce que la façon dont vous êtes positionné fait que vous me voyez sous un angle particulier. Et si vous deviez faire mon portrait, eh bien, chaque portrait serait différent. Et c'est en quelque sorte cela qui arrive aussi dans la Bible, avec ces quatre évangiles qui présentent quatre Jésus différents, quatre Jésus qui convergent vers un au-delà du Jésus des évangiles. Mais il n'y a pas un évangile qui serait bon contre les autres. Chacun est porteur d'une vérité qu'il s'agit de transfigurer. Eh bien, cela est vrai pour nous aussi. Nous sommes chacun porteurs d'une vérité qui, à elle seule, ne suffit pas, qui a besoin de se frotter aux convictions des autres, qui a besoin de se confronter à d'autres compréhensions. La vérité est une histoire de dialogue. Paul Ricoeur parlait du conflit des interprétations. C'est à cette condition qu'il y ait débat, qu'il y ait peut-être négociation parfois, que nous pouvons faire émerger une vérité authentique. Peut-être est-ce une manière de dire que la vérité est justement un chemin de vie sur lequel on n'arrête pas d'avancer. Peut-être est-ce le jour où nous cessons d'avancer que nous devenons cet intégriste qui nous déplaît tant. La métaphore biblique du Saint-Esprit aborde la vérité par la pluralité des expériences, par la multitude des réalités. L'Esprit dit l'interaction des différentes perceptions, et c'est l'interaction de toutes ces perceptions qui permet d'accéder au plus près de la vérité. Nous l'avons entendu avec cette citation du prophète Joël, « Le don de l'Esprit est promis à toute chair ». Nous avons tous droit à la vérité. Il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient le droit de savoir au prétexte qu'ils seraient bien nés ou qu'ils auraient atteint un âge canonique ou encore qu'ils auraient montré d'une manière ou d'une autre qu'ils méritent la vérité. Le don de l'Esprit est un don universel. Il est pour ces catéchumènes et il est pour vous aussi, en vérité. Le don de l'Esprit est un don universel qui affirme que nul ne saurait être tenu à l'écart de ce qui rend la vie authentique. Il n'y a pas d'un côté les intellectuels et de l'autre des ignorants, des imbéciles, des attardés, des sous-hommes, des mécréants. Chacun est reconnu comme ayant une part de vérité à faire valoir, une part de vérité à frotter à la vérité de ses contemporains pour faire émerger cette vérité plus grande dont je parlais. L'intelligence des situations, l'intelligence du monde se précise à plusieurs. C'est l'intelligence collective. Voilà ce que désigne aussi le Saint-Esprit. Alors, parler du travail de l'Esprit sur votre intériorité, c'est dire que chacun de vous est un individu, un être à part entière. Vous n'avez pas à vous fondre dans la masse. Faites valoir votre personnalité. Pour cela, pour donner de la couleur à votre vie, ne craignez pas les rencontres, ne craignez pas les dialogues, les débats, ne craignez pas le prochain. Parler du travail de l'Esprit, c'est énumérer les interactions dont vous avez bénéficié et dont vous avez encore besoin pour faire de vous une personne. Non plus simplement un individu, mais une personne, c'est-à-dire un individu doté d'une conscience. Enfin, parler du travail de l'Esprit, c'est reconnaître que votre intelligence a été aiguisée à chaque fois que vous avez confronté votre approche de la vie à d'autres approches. Et cela fait de vous une personne dotée d'une compréhension, le fait d'attraper la vie à plusieurs. Alors ce processus n'est pas achevé. Vous n'en avez pas fini avec la catéchèse. C'est un chemin infini. La vie de foi est un chemin infini. Il n'est pas un moment où nous pouvons saisir cette vérité de la vie et nous en contenter. La vie, elle, continue à avancer. Et si vous vous arrêtez, elle fera son chemin sans vous. Mais ce que dit l'Esprit, ce que dit cette métaphore de l'Esprit souffle, c'est que vous avez désormais tout à disposition pour ne pas vous contenter de voir le train de la vie passer sous votre nez. Vous avez aujourd'hui embarqué dans ce train de la vie, eh bien, bonne route avec nous. Ce processus est appelé à se poursuivre. Alors, chers catéchumènes, je vous le dis au nom de cette communauté, nous sommes un peu, et c'est une galéjade, heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes heureux de poursuivre notre bout de chemin en votre compagnie. Contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, à savoir que vous avez encore tout à apprendre, à savoir que vous avez à vivre au crochet de cette communauté, que vous êtes des moins que rien, encore des petites pousses, des petits brins d'herbe verte qu'un souffle pourrait faire disparaître. Eh bien, entendez bien que nous considérons que c'est avec vous, vous toutes, que nous serons plus à même de redonner à la vie sa véritable dimension. Oui, grâce à vous. Amen.